de ce soir a pour objet le ciel. Donc, c'est une instruction qui n'est pas donnée. C'est une instruction qui n'est pas donnée. Vous m'entendez ? Le ciel. C'est une instruction qui n'est pas donnée systématiquement, mais qu'il a été décidé de donner cette fois-ci. Il n'est pas besoin de vous indiquer l'importance de cette question, puisque c'est ce pourquoi nous sommes faits. Tout est pour la vie éternelle. Donc, c'est la fin des fins. Tout s'explique à partir de cela. À vrai dire, le vrai traité du ciel a déjà été fait, puisque vous avez eu un sermon sur la Sainte Trinité. Or, le ciel, essentiellement, c'est la Sainte Trinité. La Sainte Trinité vue, aimée. Donc, c'est le meilleur moyen que l'on aurait de développer ce que sera notre ciel, c'est de montrer ce que sera la Sainte Trinité. Mais enfin, saint Thomas d'Aquin en particulier fait un traité sur la fin de l'homme, sur le paradis, distinct évidemment du traité sur la Sainte Trinité. La première chose à bien comprendre quant au ciel, c'est que c'est notre fin, ce pourquoi nous sommes faits. Ce n'est pas si facile, d'abord parce que nous ne sommes pas au ciel, et donc nous entrevoyons le ciel comme une alternative. Il y a la mort, ça tout le monde y passe, le jugement dernier tout le monde y passe, et ensuite eh bien, il y a où le ciel, avec le purgatoire si l'on a encore des peines à expier, ou l'enfer. Et il semblerait que finalement cette alternative puisse nous fausser un petit peu notre vision des choses, ça serait possible, alternative comme si nous avions deux fins. Le ciel est une de nos fins, l'enfer est une de nos fins, ce sera l'une ou l'autre. Évidemment, cette vision n'est pas la bonne. De la même façon que si j'ai une montre, il y a deux alternatives pour ma montre. La première, c'est qu'elle fonctionne, qu'elle indique l'heure, et la deuxième, c'est qu'elle soit brisée. C'est vrai que ce sont deux alternatives. Il se peut qu'elle continue à fonctionner, ou alors il se peut que suite à un accident, elle ne marche plus. Mais la montre n'a pas deux fins. Elle n'est pas faite ou bien pour marcher ou bien pour être écrasée. Elle est faite pour indiquer l'heure. Si elle cesse d'indiquer l'heure, c'est qu'elle a manqué sa fin. Eh bien, il en est de même pour le paradis et l'enfer. C'est-à-dire qu'il faut petit à petit que notre vision soit de plus en plus réaliste, nous rendre compte que le ciel, c'est notre fin. L'enfer n'est pas notre fin. L'enfer, c'est manquer sa fin. Cette chose est si importante que toute la doctrine catholique de la liberté est pendue à elle. La liberté, c'est le mode selon lequel l'homme doit s'acheminer à sa fin. La liberté, ce n'est pas la capacité que nous avons de choisir entre le ciel et l'enfer, que nous aurions, la capacité que nous aurions de choisir entre deux fins. La liberté, c'est un moyen, le mode selon lequel nous devons arriver à notre fin qui est unique, c'est le ciel. Et l'enfer alors ? Eh bien l'enfer, c'est d'user mal de notre liberté. C'est une défaillance de l'usage de notre libre arbitre. C'est comme la machine qui tombe en panne. Donc ça c'est important parce que ça commande la doctrine de la liberté et finalement au fond, l'erreur du libéralisme est derrière. Donc si nous concevons bien que nous sommes faits pour le ciel, que le bon Dieu nous a fait pour le ciel, alors beaucoup de choses s'éclaircissent. Beaucoup de choses s'éclaircissent dans la doctrine chrétienne. Donc nous allons commencer par cela, par ce qu'est la fin. Toute chose qui existe et qui aurait pu ne pas exister ne s'est pas donnée à elle-même son existence. Monseigneur Lefebvre nous le rappelait dans une conférence que nous avons entendue au repas. Une chose qui existe, mais qui aurait pu ne pas exister, c'est-à-dire est contingente, comme on dit, eh bien ne s'est pas donnée à elle-même son existence. Parce que si elle s'était donnée à elle-même son existence, alors elle ne pourrait pas ne pas exister. Donc quelqu'un d'autre lui a donné cette existence. Or, cet autre qui lui a donné son existence agit pour une fin, parce que tout être qui agit, agit pour une fin. Donc, en donnant cette existence, il lui a donné cette existence pour une fin. C'est valable pour toutes les choses, hormis Dieu, évidemment, puisque Dieu ne pouvait pas ne pas exister. Donc, toutes les choses de l'univers sont pour une fin. C'est manifeste. C'est manifeste déjà dans les choses qui sont faites par l'homme. Une maison est faite pour une fin, c'est pour être habitée. Un stylo est fait pour marquer. Un livre est fait pour être lu. C'est vrai pour toutes les choses de l'univers naturel, les végétaux, les animaux, les minéraux ont tous leur finalité propre, l'individu est fait pour l'espèce, etc., etc. Toutes les choses de cet univers ont une fin. Et donc il en est de même de l'homme. L'homme est fait pour une fin. Or, ce n'est pas lui qui s'est donné à lui-même son existence, donc sa fin, ce n'est pas à lui de la choisir. Vous voyez, cette pensée si simple et fondamentale. C'est fondamental parce que, naturellement, l'homme aura une certaine tendance à se fixer à lui-même sa fin. Pour moi, ma fin, c'est ceci. Pour moi, ma fin, c'est l'argent. Pour moi, ma fin, c'est le plaisir. Pour moi, ma fin, c'est le pouvoir. Pour moi, ma fin, c'est un certain équilibre de vie qui me permettra un certain bien-être, un certain confort. Finalement, on a tendance, en raison du fait qu'on est libre, à se fixer soi-même sa propre fin. Et là, il faut bien se rendre compte que c'est, encore une fois, une illusion. Nous ne pouvons pas nous fixer notre fin. Celui qui cherche à aller autre chose qu'à ce pourquoi Dieu l'a fait, se trompe de voie. C'est absolument clair. Donc tout le problème ne va pas être de se fixer sa fin, mais de trouver la fin pour laquelle nous sommes faits. Nous avons une fin de la même façon que le stylo a une fin. Exactement de la même façon. Quelle est cette fin ? Alors cette fin, nous dit saint Thomas d'Aquin, elle doit être proportionnée à ce que nous sommes. La fin de l'animal est proportionnée à l'animal. Le propre de l'homme, c'est que c'est un être spirituel, donc sa fin est spirituelle. Alors on dira, pourtant, il y a bien des bonheurs corporels. Ne serait-ce que le bonheur de la nutrition, le plaisir de la nutrition. Donc ça, ce sont bien des bonheurs qui touchent l'homme. Donc, dira Épicure, le bonheur est dans le plaisir corporel. Alors, réponse de saint Thomas d'Aquin, le bonheur doit être proportionné à la chose. La fin d'une chose est proportionnée à ce qu'elle est. La fin d'une montre est proportionnée à ce qu'elle est. L'homme, son propre, ce qu'il est, c'est d'être un être spirituel. C'est ça qui distingue des animaux. Donc il faut que sa fin soit distincte de celle des animaux. Oui, la fin des animaux est quelque chose de corporel. Mais la fin de l'homme ne peut pas être quelque chose de corporel. Donc, nous ne sommes pas faits d'abord pour les plaisirs du corps. Nous ne sommes pas faits d'abord pour les biens matériels. Ce n'est pas possible. Parce que notre caractéristique dans l'univers, c'est d'être des êtres spirituels. Pas seulement spirituels, mais principalement spirituels. Donc, ceci gouverne beaucoup de choses. Gouverne en particulier le fait que nous soyons toujours insatisfaits des biens de ce monde. Toujours insatisfait de ses biens de ce monde. Nous courons après et toujours il nous laisse sur notre faim. Si le bon Dieu n'avait pas élevé l'homme à l'ordre surnaturel, le bonheur de l'homme, la fin de l'homme, pardon, aurait été purement naturelle. Mais le bon Dieu a décidé d'élever l'homme à une fin surnaturelle. Cette fin, c'est son bonheur. Il y a correspondance totale entre la fin et le bonheur. Ça aussi, c'est quelque chose de crucial. Correspondance totale entre la fin et le bonheur. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est le bonheur ? C'est ce qui me convient. Qu'est-ce que c'est ce qui me convient ? C'est ce pourquoi je suis fait. Qu'est-ce que c'est ce pourquoi je suis fait ? C'est ma fin. On ne peut pas être heureux en dehors de ce pourquoi on est fait. C'est pour ça, vous voyez, que lorsque l'âme se détourne du bon Dieu, en péchant, elle trouve toujours une certaine satisfaction dans ce péché, mais elle ne trouve pas le bonheur. Elle trouve des petits bonheurs avec un petit b, mais elle ne trouve pas le bonheur avec un grand b, parce qu'elle s'est écartée de ce pourquoi elle était faite. Et ceci se traduit par le remords de la conscience, qui, au moins le remords de la conscience, qui reste, même s'il est plus ou moins étouffé, qui reste et qui la rappelle, il faut remercier le bon Dieu de nous avoir donné ce remords de la conscience, qui la rappelle à son devoir, qui est son bonheur. Il n'y a pas de différence entre le devoir et le bonheur. Si je fais mon devoir, je trouve là mon bonheur. C'est absolument certain. Donc le bon Dieu a décidé d'élever l'homme à un bonheur, une fin surnaturelle. Quelle est cette fin? C'est notre Seigneur qui nous l'enseigne dans l'Évangile et dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu dit à Abraham, « Je serai moi-même votre bonheur. » Voilà le bonheur auquel l'homme est appelé, Dieu. « Je serai moi-même votre bonheur et un bonheur débordant. » Débordant. Et notre Seigneur dans l'Évangile s'adresse à son Père et lui dit, en Jean 17, 3, « La vie éternelle, c'est qu'ils vous connaissent, vous, le seul vrai Dieu. » Voilà ce que c'est que notre fin, c'est de connaître Dieu. Notre fin ultime, c'est de connaître Dieu, c'est l'essence du ciel, la partie la plus principale de ce pourquoi nous sommes faits, connaître Dieu. Alors cette connaissance, bien sûr, ce n'est pas une connaissance purement naturelle, rationnelle, comme y arrive la philosophie, qui, nous l'avions dit, trouve l'existence de Dieu, Dieu est un pur esprit, Dieu est parfait, Dieu est tout-puissant. Non, parce que ça, c'est connaître Dieu de façon très, très infirme, très imparfaite. C'est l'essence même de Dieu, l'essence même de la déité à laquelle Dieu nous appelle. Or ça, c'est absolument en dehors des capacités de l'homme, c'est donc la Sainte Trinité à laquelle nous sommes appelés. Nous sommes appelés à connaître la Sainte Trinité. Voilà, ça, c'est l'essentiel du ciel, connaître la Sainte Trinité. Alors, tout de suite, une objection nous vient, c'est que la connaissance de la Sainte Trinité, comme toute connaissance, ça n'est pas si gratifiant, après tout. Sur la Terre, la connaissance ne nous semble pas faire l'essentiel de notre bonheur. Demandez aux étudiants si leur bonheur, c'est de s'appliquer à démontrer les problèmes de mathématiques ou de lire un livre. Ce qui ressemble le plus à la connaissance de la Sainte Trinité sur la Terre, c'est la prière. Or, il est vrai que parfois dans la prière, nous avons des consolations, mais malgré tout, il ne semble pas que la prière soit notre bonheur. Et que si le ciel est une prière continue, ma foi, est-ce que ça vaut tant la peine de se fatiguer pour y aller? Voilà, objection. Alors, c'est une objection évidemment à laquelle il n'est pas très difficile de répondre. Elle repose sur notre état présent. Nous sommes dans un corps, nous sommes in via sur la terre, dans un état qui n'est pas béatifié. Et c'est pour cela que nous ressentons cette connaissance de Dieu de façon imparfaite, premièrement. Et deuxièmement, et surtout, nous ne connaissons pas Dieu tel qu'il est. La connaissance de Dieu que donne la foi atteint Dieu directement, c'est vrai, mais sous les voiles de la foi. C'est comme si nous avions un voile. Vous savez, dans les carmels, on parle aux carmélites, j'étais dans un carmel il y a quelque temps, on parle aux carmélites et on ne les voit pas. Voile entre elles et nous. On entend leur voix, mais on ne voit même pas d'ombre. On ne voit pas parce que le voile est trop épais. Donc la foi, c'est un petit peu ça. Je parle au bon Dieu, mais je ne le vois pas. Et parce que je ne le vois pas, c'est un contact qui, bien qu'il ait ses joies, a ses peines, a ses difficultés. Il faut s'efforcer de prier. Au ciel, ce n'est pas du tout de cette façon-là, comme nous allons le voir, que les choses se passent. C'est face à face. Et parce que c'est face à face, à ce moment-là, notre âme est complètement happée par la vision du bon Dieu. Et cette vision est tellement remplissante que tous les besoins du corps lui paraissent, et tous les plaisirs du corps, tous les biens limités et partiels, finis, lui paraissent comme des ombres à côté de la lumière. Mais ça, nous ne pouvons pas nous en apercevoir. Nous le savons ici-bas. Nous savons que lorsque nous serons au ciel, notre bonheur sera total, parfait, autant qu'il est possible de contenter l'homme. Nous le savons, mais nous ne le vivons pas. Et parce que nous ne le vivons pas, nous avons du mal à en tirer les conséquences. Donc c'est la foi qui nous aide là aussi. La foi nous dit, je sais que ce bonheur sera effectivement parfait. Parce que tous les bonheurs que peuvent apporter les biens naturels sont une ombre à côté de cette pure lumière. Alors cette vie est d'abord une connaissance de Dieu. Saint Thomas nous explique que c'est d'abord une connaissance de Dieu et non pas d'abord un amour. La vie éternelle, ce n'est pas d'abord d'aimer Dieu, mais d'abord de le connaître. On explique en disant que l'intelligence est supérieure à la volonté. Cette connaissance est une connaissance de la déité, de Dieu lui-même, la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, tel qu'il se connaît. C'est-à-dire que c'est une connaissance de même nature que celle que Dieu a pour lui. Pas dans la même mesure, parce que Dieu est infiniment connaissable et notre capacité de connaissance est finie. Donc nous ne pouvons pas le connaître autant qu'il est connaissable. Seul Dieu peut se connaître autant qu'il est connaissable. Mais nous le connaîtrons de la même façon qu'il se connaît. Pas autant, mais de la même façon. Donc la science que Dieu a lui-même, cette parfaite clarté sur lui-même, nous y participerons. Nous savons, je vous dis ça, mais évidemment nous ne pouvons pas le concevoir. C'est très très au-dessus de notre pauvre âme. Mais évidemment c'est quelque chose de largement supérieur à ce qu'aurait pu concevoir tout esprit humain. C'est le face-à-face. Saint Paul nous dit, 1 Corinthiens chapitre 13, « Maintenant nous voyons comme dans un miroir en énigme, comme dans un voile, sous un voile. Alors nous verrons face à face. Maintenant je connais en partie, alors je connaîtrai comme je suis connu. » Et à Saint Jean, 1 Épître de Saint Jean chapitre 3, « Nous savons que lorsqu'il nous apparaîtra, nous lui serons semblables parce que nous le verrons comme il est. » Alors, vous voyez, on pourrait s'arrêter là. Il n'y a rien de plus à dire essentiellement que ça. Le ciel, c'est de connaître Dieu. C'est simple. C'est très simple parce que c'est Dieu. Alors, cette simplicité est une simplicité de richesse. Ici-bas, la simplicité n'est pas toujours une simplicité de richesse. La simplicité de la vie intérieure est une richesse. Mais lorsqu'on dit que telle personne est une âme simple, ce n'est pas une simplicité de richesse. Le bon Dieu, lui, c'est une simplicité de richesse pure. C'est-à-dire que c'est une simplicité qui est si abondante parce qu'elle contient l'infini de l'être qu'on ne s'ennuiera jamais. C'est comme un océan de découverte en découverte, mais un océan qui est comme une goutte d'eau. C'est un océan, c'est-à-dire qu'on a toujours quelque chose à découvrir, mais c'est comme une goutte d'eau parce que c'est toujours la même chose qu'on découvre. Mais c'est si passionnant que tout le reste ne nous laissera plus que dégoût, presque dégoût. C'est-à-dire qu'il y a des bonheurs accidentels, comme nous le verrons, des connaissances, mais toutes ces choses-là, même surnaturelles, seront comme une ombre. Nous serons tellement happés par ce paysage que nous aurons à peine le désir de nous intéresser à autre chose. C'est un petit peu comme, si vous voulez, quand vous lisez un livre passionnant. L'histoire d'un grand personnage, eh bien, parfois, on a du mal à poser le livre. Le soir, à 16h, il faut que je me couche, tant pis, un chapitre, et encore un chapitre, encore un chapitre. Finalement, tout le livre y passe. Ça, c'est arrivé. Ça arrive. Et si vous voulez, c'est un petit peu ça. On est tellement pris par cela que tout le reste, on le fait presque avec peine. Voilà. Évidemment, pour pouvoir voir le bon Dieu, il faut avoir son âme surélevée, parce que notre âme, si le bon Dieu se donnait à voir à elle sans qu'elle soit surélevée, elle en mourrait. Pour pouvoir voir le bon Dieu, il faut que l'âme ait une certaine capacité de le voir. Si elle n'avait pas cette capacité, la force de l'objet connu serait si grande, son immensité est si grande, son infinité est si grande, l'être connaissant, c'est-à-dire notre âme, ne pourrait pas supporter cela et serait quasiment anéanti sous la connaissance. C'est un petit peu quand dans un récipient, vous voulez mettre un poids qui est trop lourd, vous cassez le récipient. C'est nécessaire, vous cassez le récipient. Et là, c'est la même chose. Alors le bon Dieu, pour pouvoir se donner à connaître à nous, va nous donner une élévation qu'on appelle la lumière de gloire, lumen gloriae, qui sera une élévation de notre âme pour la rendre capable, de façon surnaturelle, de recevoir cette connaissance de Dieu. Et c'est ce que nous disons dans le psaume 35, Illuminet tuo vitebimus lumen. Dans votre lumière, nous verrons la lumière. Cette lumière de gloire nous permettra de voir la lumière de Dieu. La lumière de Dieu, le Père qui est lumière, le Père des lumières, comme dit saint Pierre, je crois, le Père de lumière auprès duquel il n'y a aucune ombre, et le Fils qui est lumière, lumen deluminé, comme nous le disons dans le credo. Il est lumière de la lumière. Lumière engendrée par la lumière. Et nous verrons la lumière, nous verrons la lumière de la lumière, et pour voir cette lumière et cette lumière de la lumière, nous aurons une lumière. Cette lumen gloriae, cette lumière de gloire qui sera une surélévation de notre âme. Un petit peu comme, ici-bas, nous connaissons, nous croyons en Dieu révélant grâce à la lumière de la foi. De même que nous croyons en Dieu révélant grâce à la lumière de la foi, nous verrons Dieu grâce à la lumière de la gloire. Ici-bas, lorsque nous connaissons une chose, nous la connaissons, dit la psychologie, par l'intermédiaire d'espèces, comme on dit. Espèces, c'est-à-dire le concept, c'est une sorte d'intermédiaire entre la chose et nous. C'est ce par quoi nous connaissons une chose. Par exemple, lorsqu'il y a une feuille de papier, la feuille de papier a la nature de papier. L'intelligence connaît la nature de papier par l'intermédiaire d'un concept qui est semblable à la nature qu'a le papier. Donc, les choses, nous ne les atteignons que par l'intermédiaire de ce concept. Vous comprenez bien que lorsque je connais une feuille, la feuille n'est pas dans ma tête. Autrement, ce serait dangereux de penser aux choses. Eh bien, au ciel, c'est tout à fait différent. Entre Dieu et l'âme, il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas de concept qui serait une similitude du bon Dieu. Le bon Dieu prend la place du concept, prend la place de cet intermédiaire. Il n'y a pas d'intermédiaire. L'âme est directement en contact avec Dieu. L'intelligence est directement en contact avec Dieu, sans intermédiaire. Face à face, comme dit saint Paul. Donc ce n'est pas je connais Dieu grâce à un concept. C'est je connais Dieu grâce à Dieu. Il est là, face à face, il n'y a aucun écran, aucun intermédiaire. C'est la proximité, l'immédiateté absolue. On ne peut pas faire plus contact plus fort, surtout que c'est un contact spirituel. L'esprit, en contact avec l'esprit, or l'esprit ne prend pas de place matériellement. C'est une union spirituelle extraordinaire. Nous sommes baignés en Dieu. Baigné en Dieu. Alors tout ceci d'ailleurs que nous connaissons par la théologie, par la foi, par la théologie, nous est confirmé par les révélations privées. Des hommes béatifiés se sont révélés, évidemment ça n'a pas du tout le même poids que la révélation, que l'évangile, mais ça n'est pas non plus à mépriser. Des hommes se sont révélés à des hommes sur terre pour leur parler de ce bonheur du ciel. Il y a d'abord certaines âmes qui, semble-t-il, dès la terre, ont connu un petit peu la vision béatifique. Alors cette question est difficile. Est-ce que vraiment c'est possible d'avoir cette vision béatifique sur terre? C'est une question un peu disputée. Mais saint Thomas d'Aquin, en tout cas, penche pour dire oui, certains saints, en particulier saint Paul, semble-t-il, ont vraiment eu quelque chose de la vision béatifique sur terre. Et ensuite, elle n'arrive plus à le décrire. Elle n'arrive pas à l'exprimer. J'ai trouvé un texte de sainte Thérèse d'Avila qui semble dire la même chose. Je vais essayer de le retrouver. Vision de la sainte Thérèse d'Avila au jour de l'Assomption de l'an 1561 au monastère de Saint-Thomas à Avila. Étant un soir fort recueilli dans un oratoire, mais si malade que je ne croyais pouvoir faire oraison, je pris mon rosaire pour prier vocalement et sans nul effort d'esprit. Mais à peine quelques instants s'était-il écoulé qu'un ravissement vint, avec une irrésistible impétuosité, m'enlever à moi-même. Je fus transporté en esprit au ciel. Les premières personnes que j'y aperçus furent mon père et ma mère, et dans un très court espace de temps, celui d'un Ave Maria, je découvris d'inénarrables merveilles. Depuis cette grande faveur, le divin maître, à certains intervalles, a daigné me révéler des secrets plus grands encore sur son royaume, sans qu'il m'ait jamais été possible de rien voir au-delà de ce qu'il lui plaisait de me découvrir. Le moindre de ces secrets suffit pour ravir l'âme d'admiration et lui inspirer le plus profond mépris de toutes les choses de la terre. Je voudrais donner une idée de la moindre de ces visions, mais je trouve que c'est impossible. Car il y a tant de différences entre la lumière de ce divin séjour, où tout est lumière, et la lumière d'ici-bas, que celle du soleil ne semble que ténèbres. L'imagination la plus vive et la plus pénétrante ne peut s'en figurer l'éclat, ni se représenter aucune des merveilles que notre Seigneur me faisait alors connaître, avec un tel excès de plaisir que tous mes sens en étaient ravis. Nul terme ne pouvant exprimer cette suavité et ces délices, je suis forcé de n'en pas dire davantage. Elle n'arrive pas à décrire les choses, elle n'arrive pas à donner de mots, elle n'arrive pas à trouver de mots. Si elle en avait trouvé, nous les aurait dit, elle n'arrive pas. C'est là où nous voyons, vous voyez, que Dieu, c'est vrai, nous lui sommes semblables, mais il est quand même autre. Il est quand même autre, il est l'autre. Mon âme, depuis qu'elle a contemplé ces merveilles du paradis, voudrait toujours demeurer dans cette région de lumière, sans revenir à la vie, tant elle a conçu de mépris pour toutes les choses de la terre, qui ne sont à ses yeux qu'une vile boue. Mourir me semble maintenant la chose du monde la plus facile pour l'âme fidèle à Dieu. Alors elle a une autre vision, et elle termine cette autre vision en disant « Le bonheur céleste dont je me sentis inondé ne se peut exprimer. C'est quelque chose d'ineffable, c'est-à-dire indicible. Et à moins de l'avoir senti, on ne peut s'en faire aucune idée. Je compris que tout le bien qu'on peut souhaiter était réuni là. » On ne peut rien dire, quoi. C'est ce que dit saint Paul, d'ailleurs. Hein, on ne peut rien dire. Je continue quand même à parler. J'y ai pas été, moi. Oui, je peux en parler. Alors, Dieu donc, et en Dieu nous connaîtrons évidemment tout ce qui lui plaira de nous faire connaître, c'est-à-dire les saints du ciel, et tout ce qui est relatif à notre béatitude. Par exemple, les saints qui sont en ce moment élus au ciel voient dans l'éternité tout ce qui concerne de près ou de loin leur propre béatitude. Par exemple, ceux qui, par leur sainteté, ont acquéri de grands mérites pour les âmes, eh bien, voient les fruits de ces mérites, par exemple. Après la connaissance, l'amour, évidemment. L'amour fait partie de la béatitude, la charité. La foi fait place à la connaissance, directe, face à face. L'espérance fait place à la compréhension, c'est-à-dire à la possession, et la charité fait place à la charité, c'est-à-dire que seule la charité, comme nous dit saint Paul, demeure au ciel. Évidemment, on ne peut pas connaître Dieu sans l'aimer pleinement, parce que qu'est-ce que nous aimons? En toute chose, nous aimons un bien, mais là, nous avons notre bien, notre fin, ce pourquoi nous sommes faits, qui remplit totalement notre capacité. Donc l'âme est complètement ravie. Cet amour est entier, total, totalement pur. Ici-bas, parfois, notre amour est un petit peu imparfait. Là-haut, il n'a aucune once d'imperfection, parce que il est totalement rempli, happé, happé par ce que l'intelligence voit. On aime Dieu d'un amour total, entier. Et on ne peut rien aimer en dehors de lui, si ce n'est pour lui. Cet amour est tellement fort que l'âme ne peut plus pécher. Lorsque nous péchons toujours par la volonté. Mais là, la volonté ne peut pas s'écarter du bon Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque nous écartons du bon Dieu par la volonté, c'est toujours parce que notre volonté, notre intelligence n'est pas en contact avec le bien total. Donc, elle entrevoit la caducité des biens de ce monde, elle choisit un bien partiel. Au ciel, ce choix n'est pas possible. Nous sommes libres, oui, libres dans un certain sens de trouver les moyens de glorifier Dieu, mais pas capables de s'écarter de Dieu. On ne peut pas. On ne peut pas pécher. Et c'est l'un des grands bonheurs du ciel. Ici-bas, tous les bonheurs sont mêlés d'un peu d'inquiétude, parce que nous pouvons les perdre. Là-haut, aucune sorte de cette inquiétude. De toutes tes forces, là oui, on le fait. Et on ne peut pas ne pas le faire. Et on le fait sans effort. Évidemment, cette connaissance et cet amour, cette connaissance, ciel essentiel primaire, cet amour, ciel essentiel secondaire, nous donne un bonheur, une joie absolument parfaite. Un contentement total. Alors c'est ça qui doit nous aider sur la terre. Nous rappeler que si nous ne connaissons pas ce bonheur, nous savons qu'il sera total, absolu. C'est ce que dit saint Philippe à notre Seigneur. Jean, chapitre 14, versets 9 et 10. « Seigneur, montrez-nous le Père, et cela nous suffit. » Eh bien, notre Seigneur va nous montrer le Père, et cela nous suffira. « Réjouis-toi, serviteur bon et fidèle. Entre dans la joie de ton Maître. » Matthieu, chapitre 25 et 21. Psaume 15. Vous me comblerez de joie par votre face. Il y a des délices sans fin à votre droite. C'est un rassasiement total, un enivrement spirituel. Et cette joie, nul ne nous l'arrachera. Jean, chapitre 16, verset 22. Donc essentiellement, c'est un bonheur spirituel. Bien sûr, il y aura aussi un bonheur corporel. Par redondance, le corps va participer au bonheur de l'âme, parce qu'ils sont intimement unis. Et le corps glorifié est dans un bonheur parfait, bien au-delà évidemment, bien au-dessus de tous les bonheurs corporels de la terre. Les bonheurs corporels de la terre sont une ombre à côté du bonheur corporel du ciel, qui est lui-même une ombre à côté du bonheur spirituel. Donc un bonheur corporel total et des qualités du corps. Alors nous savons ces qualités par la théologie, il n'est pas facile de déterminer exactement pour certains d'entre eux ce qu'elles seront. Donc il y a l'impassibilité, évidemment, c'est-à-dire le fait qu'on ne souffrira plus de rien. Plus de rien. Donc, nous retrouvons l'impassibilité qui avait été donné à Adam. Évidemment, ce n'est pas la même, parce qu'Adam n'était pas dans la gloire, mais Adam était impassible. Donc, nous serons aussi impassibles. Capacité de souffrir, de souffrir. La subtilité. Alors, la subtilité, le corps, comme dit saint Paul, sera spiritalé, le corps spirituel. Alors, certains ont cru, des pères de l'Église ont pensé que ça voulait dire que le corps, la matière de notre corps devenait un peu comme l'esprit. Mais non, ce n'est pas cela. C'est pas possible que la matière devienne esprit. Ce que ça veut dire, cette subtilité, c'est que le corps sera entièrement sous la domination de l'âme, comme un outil très agile, voyez, très soumis à l'âme. Et donc il va être tellement proche de l'âme qu'il est comme spirituel. Mais ce sera notre corps actuel, hein, bien tangible, bien matériel, le corps que nous avons. Mais c'est un corps qui sera subtil dans le sens où il sera docile. L'agilité, c'est la faculté de se transporter d'un lieu à l'autre. Pourquoi ? Parce que le corps étant parfaitement soumis à l'âme, la volonté de l'âme d'aller en un lieu imposera ce mouvement au corps. Et enfin, la clarté. Clarté, c'est-à-dire la lumière. La lumière de l'âme. Lumière spirituelle de Dieu se traduira par une lumière matérielle dans le corps. Une lumière matérielle un petit peu semblable à celle qu'avait notre Seigneur lors de la transfiguration. Alors, certains disent que la subtilité fait que le corps pourra traverser les corps. Et on explique, par exemple, certains disent, notre Seigneur a traversé le cénacle parce que son corps était glorieux, donc il pouvait traverser d'autres corps. Si on suit saint Thomas d'Aquin, c'est inexact. Pour saint Thomas d'Aquin, le fait d'être subtil, ça ne fait pas qu'on puisse traverser d'autres corps. Donc, on ne pourra pas traverser d'autres corps. On ne pourra pas traverser des murs, on ne pourra pas traverser... Mais si notre Seigneur a pu le faire, c'est donc par miracle. Ce n'est pas parce qu'il était glorieux, mais c'est par miracle, au cénacle. Bon, c'est des questions un petit peu difficiles et secondaires. Où sera-ce ? Où est le ciel ? Pour l'instant, à l'heure actuelle, le ciel est composé du corps de notre Seigneur. Enfin, au ciel, il y a le corps de notre Seigneur, le corps de la Sainte Vierge Marie, et les anges, et les élus humains, quant à leur âme. Mais du seul fait qu'il y a le corps de notre Seigneur, le corps de la Sainte Vierge Marie, il y a un lieu corporel, il y a un lieu matériel, ce lieu qu'on appelle le ciel. Alors nous sommes tentés de dire que ce ciel, il est au-dessus de nous. Bien. D'ailleurs, au jour de l'ascension, notre Seigneur s'est élevé dans les cieux. Et du temps où il était sur la terre, notre Seigneur appelait le paradis le royaume du ciel. Le ciel, c'est ce qui est au-dessus de la terre. Bon. Mais très vite, on s'aperçoit que c'est difficile de dire cela, parce que à ce moment-là, le ciel des Australiens et le ciel des Français ne seraient pas le même. Et oui. Bon. Alors, je ne veux pas tomber dans le ridicule, mais vous voyez bien que il est impensable d'essayer... avec certitude de localiser le ciel quelque part dans l'univers spatial. Deus fit, comme dirait saint Paul. Dieu sait. Saint Thomas d'Aquin dit ceci. Bien que aux âmes après la mort, il n'ait pas été assigné des corps dont elles seraient les formes ou les moteurs déterminés, toutefois certains lieux corporels leur sont assignés par une certaine convenance dans lequel elles sont comme dans un lieu. Les âmes des élus actuellement sont dans un lieu. Un lieu supérieur leur est assigné, à savoir Dieu dont le siège est le ciel au témoignage de l'Écriture. Et donc nous disons que les âmes qui sont dans une participation parfaite de la divinité sont dans le ciel. Mais où est ce ciel ? Ça, renonçons à nous poser la question. Renonçons à nous poser la question. Alors, le ciel sera différent selon les âmes. C'est-à-dire que la participation à la vie divine, qui sera... la participation à la vision béatifique, la façon de voir Dieu et de l'aimer va être proportionnée au degré de charité que l'on a au moment de la mort. Donc plus une âme. Donc le ciel n'est pas démocratique, vous voyez. Il est hiérarchique. Il n'y a pas égalité au ciel. La Sainte Vierge Marie est très très au-dessus de toutes les âmes, et même de tous les anges. Et puis ensuite, toutes les âmes sont selon une certaine hiérarchie, c'est-à-dire que la gloire est donnée à proportion de la grâce à l'instant de la mort, la grâce est à proportion de la vertu de charité à l'instant de la mort, et la vertu de la charité ne peut pas, en effet, croître après la mort. Donc, il y aura une inégalité, mais une inégalité qui ne sera accompagnée d'aucune jalousie, parce que la jalousie naît d'un refus de la volonté du bon Dieu. Or, au ciel, tout le monde consent à la volonté de Dieu, or c'est la volonté du bon Dieu qu'il y ait cette inégalité. Donc tout le monde est content de cette inégalité. Et chaque âme est suffisamment pleine par le bon Dieu, le bonheur que le bon Dieu lui donne. Vous connaissez l'image, sans doute, hein, des vers à capacité plus ou moins grande. Des vers à capacité plus ou moins grande, du moment qu'ils sont remplis, eh bien, vous ne pouvez pas les remplir plus. Évidemment, certains sont plus remplis que d'autres, dans le sens où ils ont une capacité plus grande. Mais tous sont suffisamment remplis. C'est un petit peu la même chose au ciel. Évidemment, ceci nous montre comment sur Terre, eh bien, nous pouvons préparer un ciel qui soit le plus glorieux possible pour nous, pour les âmes, pour le bon Dieu. Parce que tâcher de croître en charité, qui est tout l'office d'une retraite et toute la vie chrétienne, c'est-à-dire essayer de se sanctifier, eh bien, profite à soi-même, évidemment, profite aux âmes, parce que tout est âme qui s'élève et élève le monde, et puis profite à la gloire extérieure du bon Dieu. Donc nous avons intérêt à chercher le plus possible à croître en sainteté. Sachant qu'au purgatoire, on ne peut pas croître en sainteté. Ces beautés du ciel doivent nous aider dans notre vie spirituelle, surtout par cette vertu d'espérance qui doit nous faire regarder la fin de notre pèlerinage. Nous sommes ici-bas en pèlerinage. Le ciel est notre fin. Notre fin n'est pas sur la terre. Notre demeure n'est pas sur la terre, nous sommes en voyage. C'est une idée féconde utilisée par le Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament, exploitée souvent par les pères. Nous ne sommes pas ici-bas dans notre demeure permanente. Nous sommes hors de la maison. Nous ne sommes pas encore à la maison. Parce que nous ne sommes pas chez le Père. La maison, c'est là où est le Père. Donc, tant que nous ne sommes pas à la maison, que nous sommes en voyage, considérons-nous en voyage. Celui qui est en voyage doit s'efforcer de ne pas tomber dans deux excès. Le premier excès, c'est de se considérer comme arrivé. C'est-à-dire de faire son bonheur sur la terre. Le deuxième excès, c'est de se considérer tellement en voyage qu'il fait mal son voyage. C'est-à-dire en gros qu'il faut avoir les pieds sur terre et la tête au ciel. Donc la tête au ciel, mais les pieds sur terre. Soigner notre pèlerinage. Pèlerinage collectif. Il faut se garder d'avoir du ciel une vision individuelle. Le ciel, c'est l'union mystique de l'Église avec notre Seigneur. Et si nous sommes élus au ciel, c'est parce que l'Église est élue. L'Église est élue avant nous, avant dans un ordre de nature, pas dans un ordre chronologique. Mais l'Église est élue avant nous. Elle est d'abord élue. D'abord, notre Seigneur est prédestiné, la Sainte Vierge Marie et l'Église. Et parce que l'Église, alors nous. On ne peut pas se sauver tout seul. On ne se sauve pas tout seul. On se sauve en Église, par l'Église, pour l'Église. Par l'Église, parce que c'est d'elle que nous recevons les secours qui nous permettent d'aller au ciel. Pour l'Église, parce que, en tâchant de nous sauver, nous tâchons de sauver les autres. Au ciel, le bonheur n'est pas individuel. Ce n'est pas l'âme seule face à Dieu. C'est l'Église seule face à Dieu. Et donc, nous nous réjouissons du bonheur des autres. Nous sommes dans une societas perfecta. C'est l'Église qui se continue. L'Église militante qui fait place à l'Église triomphante. Il n'y a pas d'égoïsme au ciel. Donc nous nous réjouissons au ciel du bonheur des autres, nous nous félicitons, et il y a une parfaite charité entre nous. Plus de litiges, comme disait Mgr Lefebvre dans la cassette, plus de querelles, plus de procès, plus de parfaite charité. Cette conception vraiment, c'est une maison. Lorsqu'on lit l'Apocalypse, on voit très bien, le ciel est comparé à une Jérusalem céleste, c'est-à-dire à une cité ou une maison, quelque chose d'édifié. Et dans une maison, chaque pierre a sa place. Dans l'Église, chaque personne, chaque âme a sa place. Nous sommes chacun d'entre nous unique. Unique au ciel, dans le plan du bon Dieu, et donc unique sur terre. Nous avons une mission sur terre, chacun d'entre nous, vis-à-vis de l'éternité. Non seulement vis-à-vis de nous-mêmes, mais vis-à-vis de l'Église. La moindre existence, aussi insignifiante soit-elle, aussi insignifiante qu'elle puisse nous paraître à nous-mêmes, nous pouvons nous dire qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, qu'est-ce que j'ai fait des années que j'ai vécues sur la terre, j'ai pas fait grand-chose, à quoi est-ce que je sers, etc. Vision qui bien sûr, qui peut se comprendre au moment un petit peu de découragement, mais qui doit être balancée par cette vérité de foi qui est vraie, qui est absolument vraie, c'est que chacun de nous a son rôle sur la terre. Et nous agissons auprès des âmes principalement de façon invisible et non pas de façon visible, par la communion des saints. Une âme qui vit seule dans une ville, isolée dans sa maison, qui fait ses prières quotidiennement, qui tâche d'être en bonne relation avec ses voisins, qui ne fait rien d'extraordinaire, inconnue des hommes, qui va qu'à ses activités, peut avoir une fécondité spirituelle extraordinaire, tout comme Saint Thérèse d'Enfant Jésus du fond de son Carmel. parce que si elle vit ses activités ordinaires d'une façon extraordinaire, elle participe à cette communion des saints qui sanctifie les âmes. Et nous verrons sa récompense au ciel, dans lequel la Vétula, comme dit saint Thomas, c'est-à-dire la vieille dame qui a été inconnue du monde, se verra placée bien plus haut que tous les grands de ce monde. C'est pas que systématiquement la hiérarchie de la terre doit être inversée au ciel. Il ne s'agit pas de dire que si, nécessairement la hiérarchie de la terre doit être inversée au ciel. Saint Pidis et Saint Louis au ciel se trouvent aussi au sommet. Mais bien souvent, de fait, elle est inversée en raison des trois concupiscences. Et grâce à cette inversion, eh bien, nos existences, aussi humbles qu'elles puissent nous paraître sur la terre, doivent être vues à la lumière de la foi et donc dans leur véritable dimension qui peut être très grande. C'est ainsi qu'une âme qui souffre sur son lit d'hôpital, qui offre ses souffrances, vous le savez bien, peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Donc vision, le ciel c'est vraiment tout sauf quelque chose d'individuel. Bien sûr c'est individuel dans le sens où c'est l'âme qui est élue. Mais on n'est pas élu tout seul. C'est premièrement l'Église qui est élue et secondairement l'âme en raison de l'Église, parce qu'elle participe à l'Église. Cette espérance doit être un grand moteur pour nous ici-bas. Tous les grands saints vivaient de la vie éternelle. Il suffit de lire par exemple le saint patron de cette maison, saint curé d'Ars, il ne parlait presque que du ciel. Il vivait pratiquement en anticipation. Les saints avaient un immense désir du ciel, parce qu'ils n'avaient pas plus vu, sauf exception, ils n'avaient pas plus vu le ciel que nous, mais par la foi ils savaient ce que c'était que le ciel, et parce qu'ils savaient que c'était la glorification parfaite du bon Dieu. Alors ils avaient cette grande espérance du désir du ciel, ce grand désir du ciel qui leur donnait une grande force dans la vie quotidienne. Grande force pour porter les croix, pour se renoncer, pour pratiquer le service du bon Dieu, pour servir le prochain, pour remplir leurs devoirs, leurs obligations, pour aimer le bon Dieu. Ils avaient cette grande force parce que, bien précisément, ils vivaient avec cette immense énergie du ciel. On voit ça en particulier dans les actes du martyr, des martyrs. Hein, c'est, faut dire que bon, les pauvres, souvent ils étaient promis à une mort rapide, donc ils vivaient effectivement dans l'attente très certaine d'une mort du ciel. Mais on voit très bien cette grande vision surnaturelle qu'ils avaient de la fin dernière. Et ça, c'est un grand moteur pour nous ici-bas. Ça doit beaucoup nous aider à porter nos croix, à nous vaincre nous-mêmes, à servir le bon Dieu, à servir le prochain, à faire nos devoirs, à aimer le bon Dieu, à pratiquer les commandements, à acquérir la vertu. Ça peut être un grand moteur pour nous. Mais dans la conception que nous devons avoir de la vie chrétienne ici-bas, dans son rapport avec le ciel, il y a deux excès à éviter. Le premier excès à éviter, c'est effectivement celui que je viens d'évoquer, c'est-à-dire une horizontalité de la vie présente. Je peine sur la terre, lacrimarum valle, comme on dit dans le Salvé, la vallée de larmes. Je vais essayer de trouver mon bonheur dans cette vallée de là. Donc, horizontalité de la vie terrestre, je suis fait pour ici-bas, je vais essayer de me trouver un petit confort sympathique, une vie chrétienne honnête, et puis je tâcherai d'éviter tout juste le péché mortel pour pouvoir avoir un strapontin au ciel. Donc ça, si vous voulez, cette vision un petit peu trop horizontale à laquelle l'espérance et la doctrine du ciel nous permet d'échapper. Mais d'un autre côté, il faut ne pas tomber dans l'excès inverse qui est de considérer qu'ici-bas nous sommes que dans une lacrimarum valle, que dans une vallée de larmes, et ne voir la terre, le séjour d'ici-bas que comme un lieu de souffrance, de malheur. On en bave pendant 10, 20, 30, 70, 90 ans, 100 ans, et puis heureusement après ça va être la fête. Non, pourquoi ? Eh bien, bienheureuse la Trinité nous dit, parce que, ici-bas, j'ai trouvé mon ciel sur la terre, parce que le ciel, c'est Dieu, et j'ai Dieu dans mon âme. Nous possédons le bon Dieu des ici-bas par la grâce sanctifiante. Ce n'est pas la grâce sanctifiante, Dieu. Mais toute âme qui a la grâce a Dieu en elle. Non seulement par la présence d'immensité, mais par la présence de grâce. Et donc, nous atteignons Dieu par la foi, l'espérance et la charité. Nous atteignons Dieu lui-même. Or, la vision béatifique fait suite à la foi. La compréhension ou possession fait suite à l'espérance. La charité fait suite à la charité. Nous avons déjà, ici-bas, le germe du ciel. Nous avons le ciel objectif, pour ainsi dire, parce que le ciel objectif, c'est Dieu. c'est la Sainte Trinité, nous l'avons en nous. Et nous n'avons pas encore le ciel subjectif, pour ainsi dire, c'est-à-dire la vision béatifique, certainement, mais nous en avons le germe, qui est la foi. Et donc, ce qui nous différencie du ciel, c'est le voile. Mais ce n'est pas grand-chose, un voile, finalement. Et donc, nous devons avoir cette conception de notre vie chrétienne qui comprend ces deux éléments, la croix, la joie. La peine, le ciel anticipé. Nous sommes invités à le faire déjà par notre Seigneur Jésus-Christ, qui toute sa vie sur la terre avait à la fois la vision béatifique et la croix. Même au sommet de la passion, il avait cette vision béatifique, il était au ciel, il était sur la terre. C'est un petit peu de même pour nous, même si nous n'avons pas la vision béatifique comme il l'avait lui sur la terre, nous avons ce ciel anticipé qui est la vie de la grâce. Nous portons Dieu en nous. Il nous est caché par un voile, pour ainsi dire. Mais il est là. Et il est là, non comme être passif, mais non seulement comme objet de foi, d'espérance et de charité, mais comme être actif, qui nous sanctifie par la grâce et qui nous prépare au ciel. Finalement, ce n'est pas nous, d'abord par nos propres efforts, qui atteignons le ciel. C'est le ciel qui est déjà en nous, par la présence du bon Dieu, qui travaille notre âme, qui travaille l'Église. Encore une fois, ayons une vision sociale du ciel, qui travaille l'Église, qui la purifie, son épouse, qui la sanctifie de façon petit à petit à la rendre prête à ce jour où il lèvera le voile. Il lève le voile pour chaque âme au jour de sa mort et il lèvera le voile totalement au moment du jugement dernier. Donc nous pouvons déjà commencer notre ciel sur la terre, évidemment un ciel imparfait qui se conjugue avec un esprit de pèlerinage, mais un ciel commencé.